Et donc, oui, donc ces trois aspects de la foi, l'intuition, la raison et l'expérience, eh bien, on peut les retrouver, on peut les regarder aussi sur comment développer notre foi. Mais avant de les regarder ensemble et les trois séparément, je voudrais juste, oui, répéter que c'est une émotion positive de base dans le bouddhisme, la foi. Et c'est pour ça que c'est important de la développer. En fait, je n'ai utilisé, je crois, qu'une fois jusqu'à présent le mot sanskrit pour la foi, c'est shraddha. Et c'est un mot qui en fait, foi est la traduction que nous utilisons, mais ce que ça veut réellement dire, c'est placer le cœur sur. Donc, ce sur quoi on place notre cœur, on a foi en ça. Et bien sûr, pour le bouddhisme, eh bien, ce sont les trois joyaux, le Bouddha, c'est-à-dire celui qui est éveillé, le Dharma, son enseignement et sa réalisation, et la Sangha, la communauté, tous ceux qui pratiquent. C'est là que nous plaçons notre cœur. Oui, et puis les émotions. Pourquoi est-ce qu'il faut la développer? Parce que, enfin, oui, on peut se demander avant de voir comment la développer, pourquoi est-ce qu'il faut la développer? Eh bien, les émotions, c'est ce qui nous font bouger. Quand c'est des émotions négatives, ça nous fait bouger vers le négatif. Quand c'est des émotions positives, ça nous fait bouger vers ce qui est positif. En fait, on trouve très clairement ça en anglais, ou de la même façon, clairement, si on regarde l'origine, la racine du mot, émotion, ça vient du mot émouvoir, qui vient lui-même de l'ancien français motion, on trouve en anglais pour motion, et ça voulait dire mouvement. Donc, l'émotion, c'est ce qui nous met en mouvement. Si nous voulons être en mouvement sur la voie, eh bien, il nous faut développer ces émotions positives. Alors, connaissez tous, si on veut développer la bienveillance, on fait le metta-bhavana. Si on veut développer la compassion, on fait le karuna-bhavana. Et si on veut développer la shraddha, eh bien, on n'a pas le seul hasard là non plus. Dans le bouddhisme, on a plusieurs façons de le faire. Bon, on va reprendre les trois aspects de la foi. Mais avant de les reprendre séparément, je vais juste les reprendre ensemble et retourner à ce qui est avant la foi, à l'origine de la foi dont je parlais tout à l'heure, dukkha, la souffrance ou l'insatisfaction. Eh bien, ça vaut la peine de contempler la souffrance et l'insatisfaction parce que c'est une base pour la foi. On peut commencer, pour certains c'est plus facile de commencer à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il suffit de regarder autour de nous, l'insatisfaction et la souffrance sont omniprésentes dans le monde, et pas que dans les actualités, mais dans la vie des gens qui nous entourent. Il y a la souffrance, il y a la maladie, il y a la vieillesse, il y a la séparation de ce qu'on aime. Oui, à moins d'être un Bouddha, personne autour de nous n'échappe à la souffrance. Mais il faut aussi regarder à l'intérieur. Notre dukkha, elle vient avant tout de notre réaction à ce qui nous arrive ou à ce qui nous entoure. Elle vient de notre réaction suite aux émotions positives, pardon, aux sensations positives ou négatives. Quand nous avons une sensation agréable, nous voulons la faire perdurer. Nous rentrons dans le cycle de l'avidité, nous créons notre souffrance. De la même façon, si c'est quelque chose qui est désagréable, nous rejetons et là aussi, nous créons notre souffrance. Donc, oui, pour résumer, en un mot, ça vient et on retrouve les maillons de la roue de la vie, ça vient de Tana, de notre désir, donc de notre soif, de notre avidité. Et la tradition bouddhique nous conseille de regarder tous les jours la souffrance, la vieillesse, la maladie et la mort. Et je sais qu'il y a des gens qui viennent au centre qui font régulièrement une puja que nous avons, qui s'appelle la puja matinale, dans laquelle ça commence par quatre rappels, et un de ces rappels, c'est la contemplation de la souffrance. Donc il y a des gens qui font ça tous les jours. C'est très utile. Mais ce n'est pas morbide, puisque c'est pour développer notre foi. Donc ça, c'est une façon de développer la foi. Et puis, après, on peut regarder les trois aspects dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, si on prend la raison, eh bien, comment faire ? Étudiez le dharma, lisez, écoutez, réfléchissez sur ce que vous avez lu. Est-ce que ce que vous avez lu a un sens ? Confrontez à ce que vous pensez ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que ça sonne juste ? On peut faire ça tout seul, mais on peut aussi le faire en groupe. Des mercredis, soirées de la Sangha, il y a des groupes d'études aussi, parfois, pour certains d'entre nous. Oui, si on fait ensemble, en plus, ça renforce notre foi dans la Sangha. Donc c'est aussi une belle façon de le faire. Après la raison, l'expérience. Eh bien, jeter régulièrement un regard en arrière. Depuis que vous avez commencé à pratiquer le bouddhisme, est-ce que vous avez changé ? Est-ce que vous êtes moins attaché ? Est-ce que vous viviez plus simplement ? Est-ce que vous avez plus de contentement ? Est-ce que vous êtes plus généreux ? Plus attentif ? Est-ce que vous avez amélioré vos relations avec les gens qui vous entourent ? Est-ce que vous êtes plus conscient ? Plus concentré ? On peut prendre toutes les qualités et regarder si, effectivement, on les a développées par notre pratique. Et si oui, et j'espère que c'est oui, au moins pour certaines d'entre elles, eh bien, ça va renforcer votre foi. Et donc, en renforçant votre foi, il y a plus encore, vous allez placer votre cœur sur les trois joyaux, sur votre pratique. Et le cœur, c'est aussi le domaine de l'intuition, puisque là, nous ne sommes pas dans le domaine de la raison. On va chercher à ouvrir notre cœur aux vérités spirituelles. Et c'est le domaine de la vénération, de la dévotion, de la gratitude. Bon, il y a plusieurs façons de faire qui sont venues à l'esprit, et il y en a peut-être d'autres personnes qui pourront en trouver d'autres, sans aucune... Enfin, peut-être, sûrement. Les lectures et la contemplation. Imprégnez-vous de la vie du Bouddha et de la vie des grands êtres, en lisant leurs propos, en contemplant leurs qualités, en contemplant leurs réalisations. Tout à l'heure, nous ferons une pratique de remémoration du Bouddha, et c'est ce que nous ferons. Vous pouvez aussi, si l'aspect visuel vous attire en particulier, contempler des images, vous imprégner de la beauté, du sourire des Bouddhas et des Bodhisattvas, de leur droiture. Oui, et vous pouvez comme ça vous imprégner de leur présence, et essayer de raisonner, de laisser ce qu'il y a de plus élevé en eux résonner avec ce qu'il y a de plus élevé en vous. Parce que finalement, une représentation d'un Bouddha, c'est aussi une représentation de vous-même, de ce que vous pouvez être lorsque toutes vos qualités auront atteint leur plénitude. Oui, et considérez les Bouddhas et Bodhisattvas avec respect, avec vénération. Ce sont des grands êtres. Et puis, bien sûr, il y a les rituels. Qui servent à la fois à exprimer et à renforcer notre dévotion et notre gratitude, notre reconnaissance envers l'enseignement que nous avons reçu. Lors des rituels, ce sont des actions que nous faisons, des actions du corps, de la parole et de l'esprit qui nous impliquent complètement. Ce ne sont pas des choses passives, c'est des choses actives. Donc les faire a une influence directe sur l'objet de la vénération, sur le Bouddha. Et faire ces rituels, ça nous aide donc à entrer directement en contact avec les qualités spirituelles du Bouddha. Ou des Bodhisattvas, bien sûr. C'est aussi des choses faites ensemble, et voir les autres faire les offrandes, voir les autres pratiquer aussi de la même façon, c'est aussi une chose qui inspire. Donc, pour conclure, si nous développons notre foi en développant tous ces aspects, en développant la raison avec la réflexion, l'expérience, en regardant notre expérience et en la considérant avec clarté, et notre intuition, eh bien, voilà, nous fonderons une base toujours plus forte pour avancer sur la voie, sur cette voie de transformation vers notre idéal, et ceci en compagnie de tous ceux qui sont sur la voie avec nous.